Il est Missiou, garde Harem la Terre, sur les ondes de Radio Albigès, mais aussi diffusé sur les ondes de Radio Air d'Otan. Aujourd'hui, dernière émission de la saison 2019-2020, et on a le plaisir de vous donner un peu de fraîcheur. Aujourd'hui, on va parler de glace made in Aki, de glace made in Albi. Aujourd'hui, on a le plaisir d'être en compagnie de Philippe Rionneau. Philippe, bien le bonjour.
Bonjour, bonsoir.
Alors Philippe, vous êtes artisan fruitier glacier et vous proposez depuis 2007 des glaces et des sorbets sous le nom de la glace albigeoise, mais aussi des jus de pommes et des pâtes de fruits, tout ça avec l'entreprise Les Fruits de nos Jardins. Alors dans cette émission, on va parler bien sûr de glace, de sorbet, de fruits, on va parler de la fabrication, de la récolte à la dégustation, on parlera aussi de vos vergers, de la mention agriculture biologique et puis peut-être aussi de la vente. Je crois que aussi vous êtes au magasin de producteurs La Corbeille du Ségala. Mais avant tout, comment a germé l'idée il y a un peu plus de 10 ans, en 2007, de vous lancer dans la fabrication de glace et de sorbet?
Ah, l'idée, c'est... Je voulais faire quelque chose avec les fruits et puis je dégustais, j'avais mon pique-nique au boulot dans une boîte de sorbet d'un collègue et puis en retournant le bac j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fruits et c'est de là qu'a germé l'idée. Et ensuite ça m'a trotté dans la tête pendant un an et au bout d'un an j'ai pris la décision effectivement de me lancer.
Alors c'est-à-dire de vous lancer, est-ce que vous avez déjà des bases ?
Non, j'adore la cuisine, je me suis formé à tout ce qui est transformation des aliments, des fruits en particulier. Et si j'ai choisi les sorbets, c'est parce qu'on peut faire du sorbet pratiquement avec tous les fruits. Et c'est ça qui me plaisait, c'était de pouvoir utiliser la diversité des fruits, faire un produit avec beaucoup de fruits, avec peu de sucre. Et mon idée également au départ, c'était de valoriser tous les fruits qui se perdaient, que je voyais se perdre autour de moi, des prunes, des coings et plein d'autres fruits.
Aujourd'hui, un peu plus de 10 ans après cette création d'entreprise, Les Fruits de nos Jardins, je crois que vous proposez un peu plus de 40 parfums différents.
Oui, j'arrive à 50. Enfin, il n'y a pas 50 parfums à la fois, mais pas loin.
On imagine que votre métier a évolué. D'initié, vous êtes passé maintenant à un professionnel. On peut retrouver vos glaces un peu partout dans notre belle région. D'ailleurs, dans des magasins, mais aussi sur de nombreux événements comme les festivals.
Alors, sur un secteur géographique quand même limité, on va dire 40 km autour d'Albi. Et effectivement, au départ, j'ai commencé avec les sorbets et je suis passé 2 ans plus tard avec les glaces, les crèmes glacées. Et depuis 2 ans, les crèmes glacées, j'ai demandé le label bio pour les crèmes glacées.
Alors le label bio Kezako, qu'est-ce que ça veut dire pour des glaces ?
Ben, pour des glaces, ça identifie, on va dire, la qualité bio des matières premières. Ensuite, dès le départ, et sans avoir le label bio, j'ai fait le choix de faire des sorbets et des glaces avec des recettes simples, c'est-à-dire de bannir certains additifs douteux.
Alors vous nous parlez de produits, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour faire une glace, pour faire des sorbets ?
Un sorbet, c'est simple, c'est du fruit, un peu de sucre et éventuellement de l'eau. Il y a un équilibre à respecter, passage en machine, et vous avez un produit à déguster avec une durée de vie qui va de quelques mois à un an. Je mets un an, mais effectivement quelqu'un qui achète un bac aujourd'hui, je lui conseille de le manger dans la saison.
Donc on le disait tout à l'heure, plus de 40 parfums différents, donc une multitude de fruits. Comment ça se passe pour l'approvisionnement en fruits ?
Alors, le verger, j'entretiens un verger à Gaillac avec essentiellement des pommes et quelques prunes. Ensuite, les autres fruits, soit je les récolte en sauvage, comme la mûre, le gratte-cul, soit je les récolte chez des particuliers, c'est le cas de la figue, du coing, des cerises. Et ensuite, pour la plupart des fruits, je les achète à mes collègues agriculteurs. On va dire à 80% sur le Tarn ou les départements limitrophes.
On sent que pour vous, le local, c'est important, les circuits courts, comme je le disais en début d'émission, le made in Aki.
Ben, c'est surtout que les fruits supportent mal le transport. Je parle des fruits mûrs et bons. Et donc, il y a tout intérêt à les prendre le plus proche possible du lieu de transformation.
Et vous privilégiez peut-être certaines variétés qui sont plus appropriées à la fabrication de glace et de sorbet ?
Alors la question est bonne parce que le gros problème aujourd'hui, c'est que la sélection variétale se fait sur la conservation des fruits. Donc la plupart des fruits sont sélectionnés sur des chairs dures. C'est le melon, c'est la cerise et toutes les variétés en fait qui moi me conviennent mieux, qui sont à chair molle et qui se conservent moins bien, sont de plus en plus rares à trouver et souvent c'est là je les trouve chez les particuliers.
Et oui, malheureusement, cette contrainte de la conservation, c'est une contrainte qui vient du milieu industriel.
Bah, j'ai envie de dire, ceux qui font la pluie et le beau temps, c'est essentiellement les commerçants. C'est les supermarchés qui demandent d'abord d'avoir des fruits qui se conservent longtemps pour ne pas avoir de pertes. Et le producteur en début de chaîne et le consommateur en dernier lieu, bah, finalement, il se plie au desiderata de l'acteur principal qui est le commerçant. Voilà, les grandes surfaces, puisque c'est eux qui, on va dire, qui passent le plus de volume de fruits.
Allez, on parlera en seconde partie d'émission un peu de votre démarche pour la vente voilà, la distribution. Philippe Rionneau, donc avec nous sur les ondes de Radio Albigès pour l'émission Garde Arème la Terre. Donc vous êtes artisan fruitier glacier. Ça représente quoi en termes de quantité? Combien de kilos, combien de tonnes de fruits par an et combien voilà, de kilos de glace vous vendez, vous brassez chaque année?
C'est une question, il faudrait que je réactualise mes chiffres parce que je ne vais pas forcément voir en détail. C'est à peu près 10 000 litres de glace et sorbet et à peu près 6 tonnes de fruits.
Ah oui, des fruits qui sont pour la plupart des fruits locaux. Donc on peut donc le dire, la pomme, mais aussi la figue. Vous avez les grands classiques déjà?
Les grands classiques, tous les fruits que les gens consomment habituellement, et puis des fruits plus rares comme... alors j'allais dire le kaki. Le kaki, c'est le seul sorbet que j'ai abandonné parce que la plupart des gens préfèrent le fruit brut au fruit transformé. Après, j'ai effectivement la nèfle, le sureau, allez, la rhubarbe, le coing, et puis d'autres vraiment particulièrement confidentiels comme la cornouille. Puisque là j'ai deux arbres que je récolte et ensuite sur la région j'ai pas identifié d'autres arbres.
La cornouille Kesako, c'est peut-être un fruit oublié, en tout cas c'est un fruit
méconnu. La cornouille, c'est Cornus mas, le nom latin. Ça ressemble, la feuille est exactement celle du cornouiller sanguin pour ceux qui se baladent et qui voient cet arbuste très fréquent en bordure de chemin. Et ça donne, c'est un petit fruit rouge, un peu oblong comme un ballon de rugby, avec un noyau et qui a un petit goût acidulé, qui est bon lorsqu'il est mûr, il est très fruité, mais effectivement difficile à ramasser parce qu'il mûrit de manière étalée et avec un très faible rendement. C'est pour ça que j'en propose très peu, on va dire. C'est un peu le sorbet confidentiel de ma gamme.
Et vous proposez aussi des parfums un peu qui sortent de l'ordinaire. Je crois que vous avez le safran, la spiruline et l'ortie. Il faut oser quand même.
Bah, ça c'est des choses qui viennent pas de n'importe où, c'est-à-dire c'est soit des relations avec les collègues, des producteurs de safran, de spiruline, en discutant, on part sur une idée de dessert, donc de glace. Et ensuite, pour l'ortie, on adore l'ortie dans ma famille. Et donc, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, on fait de la glace à la verveine, à la menthe, pourquoi pas l'ortie, parce que c'est une plante très intéressante d'un point de vue culinaire, d'un point de vue santé, très goûteuse, et effectivement, qui se prête bien aux glaces.
En espérant que ça relève la cote de popularité de l'ortie. Voilà, pour les enfants, l'ortie, c'est celui qui pique. Mais en fait, chez nos grands-parents, l'ortie, c'est la soupe à l'ortie, les omelettes à l'ortie. C'est aussi un bon remède. Voilà, c'est l'occasion de faire changer les a priori sur l'ortie aussi.
Qui sont tenaces, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent encore en voyant ma glace que ça ne leur pique la bouche. Alors que l'ortie est transformée, cuit, et effectivement, on peut ne pas aimer le goût, mais les piquants ne sont plus actifs.
Donc voilà une belle gamme de parfums qui a évolué depuis plus de 10 ans que les glaces albigeois existent. Donc vous travaillez aussi en réseau avec de nombreux producteurs de fruits, principalement en local, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure en Ariège, votre réseau a évolué, ne cesse d'évoluer. Vous avez encore peut-être des découvertes, des prochains parfums à nous faire déguster.
On n'invente pas un fruit tous les jours, mais c'est vrai que le réseau, il évolue. Je vous citais tout à l'heure, effectivement, que samedi dernier, on est allé ramasser des myrtilles en Ariège chez un producteur. J'ai transformé mes dernières myrtilles sauvages que j'avais en stock. Vous trouverez encore les derniers bacs en rayon dans les magasins. Mais effectivement, à partir de l'automne, enfin à partir de cet été, je passe à la myrtille cultivée parce que la myrtille sauvage est de plus en plus difficile à trouver. Et je travaille avec un producteur qui est en Ariège. Donc en fait, on a fait une petite expédition. On a fait une journée de ramassage samedi de myrtilles.
Combien de kilos ?
66 exactement.
66 kilos de myrtilles. Vous avez dû aussi vous régaler.
Ah, on en a ramassé plus que 66. Il y a une partie qui sont parties dans les estomacs.
Alors, on réalise cette interview juste à côté de vos locaux de fabrication. Concrètement, comment on fabrique une glace, un sorbet ?
Ben, concrètement, il faut préparer d'abord le fruit. Il faut faire la pulpe. Et une fois qu'on a la pulpe, c'est une formulation entre la quantité de pulpe qui apporte une certaine quantité de sucre. On rajoute le sucre qui manque pour que la glace elle soit bien souple lorsqu'on la serre. Et éventuellement de l'eau pour les parfums qui seraient trop forts. Par exemple, le cassis, c'est un fruit où effectivement on va obligatoirement ajouter de l'eau. Par contre, la prune, que j'ai en abondance, et c'est un fruit où on va simplement ajouter un peu de sucre, mais il n'y a absolument pas d'eau rajoutée. C'est ce qui donne à ce type de sorbet une présence du fruit exceptionnelle.
Oui, donc c'est des glaces et des sorbets qui sont très naturels, sans quasiment aucun produit chimique.
La plupart, on va dire, j'ai élaboré mes recettes lorsque je peux me passer d'épaississant, parce que parfois il faut ajouter la caroube ou le gouard, ce sont des plantes hein, qui absorbent l'eau. Parfois c'est quand même très utile d'en mettre à dose homéopathique pour ne pas avoir un sorbet qui cristallise, mais il y a beaucoup de recettes effectivement où je n'utilise que le fruit, le sucre et l'eau.
Est-ce que ça arrivait parfois d'avoir des échecs sur des recettes ou bien des surprises ?
Oui, ben ça c'est très fréquent parce que les fruits ils ont un taux de pectine qui évolue avec la date de maturité, avec le terroir, avec la variété. Et donc comme j'essaie de mettre le moins de rajouter le moins de produits possible, ben parfois ça arrive que j'ai pu avoir des lots de sorbet qui étaient plus friables parce que effectivement il manquait de pectine par exemple. La pectine c'est ce qu'on trouve dans le fruit, dans la pomme par exemple, et qui permet effectivement d'absorber l'eau et d'avoir un produit moelleux qui ne soit pas friable, hein, qui absorbe l'eau. Voilà.
Donc pour faire des glaces concrètement, on fait de la pulpe de fruits Et après, on le met dans des machines.
Voilà. Alors ça, c'est les sorbets. En fait, c'est des... comme je dis aux gens, pour faire simple, c'est des glaces aux fruits. Et ensuite, les crèmes glacées. Donc, les glaces aux fruits, il n'y a aucun produit animal. Et ensuite, il y a les crèmes glacées qui sont à base de lait. De lait, de crème, de jaune d'œuf. Ces ingrédients viennent s'ajouter les différents parfums, soit de la vanille ou bien lorsque je fais de la verveine, la menthe, l'ortie, selon le parfum choisi.
Très bien. Et après, il ne reste plus qu'à mettre au frais.
Bah, une fois qu'on a formulé ce mélange, il faut le laisser reposer pour que les ingrédients puissent bien se mêler les uns aux autres. Et une fois qu'on a laissé reposer en général une nuit ou un peu plus, effectivement, on passe en machine. On a en sortie une glace souple qui est très, très valorisante, hein, un peu comme lorsque vous sortez un petit pain du four tout chaud, c'est plus agréable de le manger qu'au sortir du four qu'une journée plus tard. Mais là, bon, c'est difficile de transporter la machine sur les marchés. Donc on durcit cette glace et ensuite on la met soit en vente en magasin, soit sur un marché en service à la boule.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès 95.4, 104.2 et www.radioalbigès.com. Aujourd'hui, dernière émission Garde à Rem la Terre de la saison 2019-2020. On vous propose un peu de fraîcheur en compagnie de l'artisan fruitier glacier Philippe Rionnaud qui nous propose les glaces albigeoises. Alors Philippe, on vient de parler de la fabrication des glaces. On va parler maintenant de la vente et de la distribution. Je sais tout d'abord que vous êtes aussi adhérent au magasin de producteurs La Corbeille du Ségala.
Voilà, sur laquelle vous avez fait une émission il n'y a pas longtemps avec l'ON.
Voilà.
Effectivement, c'est un magasin qu'on a créé avec des collègues. Ça remonte l'histoire à 2010, donc ça fait 10 ans. Et effectivement, donc, je vends mes produits en particulier La Corbeille du Ségala et dans d'autres magasins de producteurs. Ensuite dans des petites épiceries et puis j'ai également quelques supermarchés. Ça peut-être c'est la vente en bac. Et ensuite effectivement sur la période estivale, je fais des marchés festifs. Et le troisième débouché, c'est effectivement, pour ne pas les oublier, j'ai quelques restaurateurs ou des cafés associatifs comme le Café Plume à Lautrec, Partage ton pot à Rabastens.
Le café de Cap Découverte, on pense aussi à tous les festivals où on a pu vous rencontrer, voilà, malheureusement qui n'ont pas eu lieu, voilà, Pause Guitare, mais bien d'autres festivals, les magasins de producteurs, donc La Corbeille du Ségala, peut-être Aux Saveurs Paysannes et bien d'autres.
À Choisir le Pays, oui, à Pugouzin.
Choisir le Pays. Alors on va parler de la Corbeille du Ségala, un magasin de producteurs qui rassemble, je pense, une bonne trentaine de
producteurs.
Et ce magasin, c'est aussi des valeurs et une éthique, vous pouvez nous en dire un peu plus.
C'est un magasin où on a choisi de vendre uniquement les produits de notre fabrication et les producteurs sont sélectionnés effectivement sur ce critère-là, hein. C'est-à-dire on fait attention à ce qu'il n'y ait pas des producteurs qui utilisent des matières premières industrielles pour fabriquer leurs produits. Donc c'est le critère le plus, on va dire, le plus important. Et ensuite, c'est un magasin qui fonctionne de manière... on se partage les responsabilités pour le faire tourner. Voilà, donc c'est vraiment... c'est un magasin 100% associatif. Ouais.
Avec une structure associative qui la gère ou une...
Voilà, on a un règlement intérieur, on a des statuts et les responsabilités évoluent au fil du temps. On peut changer de fonction. On a un système assez souple à la carte où effectivement celui qui n'a pas le temps de faire les permanences ou qui n'a pas envie, il ne les fait pas. Ceux qui en font, on doit une compensation et ça permet effectivement que chacun y trouve son compte. Et pour le moment, ça marche bien.
Oui, un magasin en tout cas très agréable. On avait l'occasion de tendre nos micros à des clients et puis aussi à des producteurs, notamment Chloën de la ferme de la Petite Terre.
Petite Terre, oui, qui est productrice de pain. de pain bio à partir de ces céréales. Ouais.
Et donc on peut vous retrouver aussi, vous, lors de permanence au magasin ?
Je fais une permanence par mois, le vendredi, au magasin, et je m'occupe aussi en commission gamme du choix des produits et puis de quelques petits détails administratifs dans le magasin.
Un magasin où on prend le temps de se rencontrer, de parler des produits made in Aki, c'est important ça, de prendre le temps de rencontrer les consommateurs.
Ben c'est bien effectivement que ce qui est apprécié à la fois par nous, producteurs, et par les consommateurs, c'est effectivement le contact. Et je vois récemment, j'ai une collègue qui ne faisait pas de permanence et qui m'a dit « allez, je vais consacrer à partir de juillet, je reprends les permanences une fois par semaine parce que c'est important de pouvoir discuter avec mes clients, d'expliquer mes produits, comment je produis. » Et ça fait toute la différence avec un magasin où on a un produit mais où on ne peut pas discuter avec le producteur.
Allez, cette année 2020 aura été marquée malheureusement par cette crise sanitaire. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que vous avez, est-ce que ça a été difficile pour vous ? Est-ce que vous avez eu peut-être vu un regain d'intérêt pour les clients sur les produits locaux ?
Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour parler de la crise. C'est vrai que j'ai eu de grosses pertes puisque j'ai fait mes premiers marchés la semaine dernière. Juillet, je pense que je vais tourner à moins 50% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Par contre, le printemps a été quand même très beau, très chaud, ce qui m'a permis de maintenir une activité à peu près régulière depuis le mois d'avril, de continuer à garder ma salariée à mi-temps et de faire le gros dos et bon an mal an de continuer à fonctionner. Et la saison n'est pas finie, mais pour le moment les marchés reprennent un peu plus vite que prévu. Il y a des communes qui avaient décidé de ne rien faire jusqu'au mois d'août, si on prend le cas d'Albi. Effectivement, le premier marché gourmand commence ce soir, mardi, on est le 20,
je mardi crois, 21 juillet. Juillet.
21 juillet, oui.
Oui, donc on imagine une période assez dure. On espère en tout cas que vous allez passer un bel été et qu'on va encourager aussi nos auditeurs à consommer local, à venir vous rencontrer aussi sur les différents marchés. Peut-être qu'on peut les citer, les prochains marchés.
Les prochains marchés. Le mardi soir, chaque mardi soir, le marché d'Albi, place Sainte-Cécile, et le marché de Gaillac. Ensuite, il y aura beaucoup d'apéro-concerts chez les viticulteurs. Moi, je participe aux apéro-concerts Domaine des Vignals, Domaine d'Escos et Maspignou. Voilà. Ensuite, plus loin d'ici, à Sauveterre de Wergue le vendredi soir. Je crois que j'ai fait à peu près le tour des marchés réguliers hebdomadaires. Et Rivière, oui, le marché de Rivière, où il y a des tables depuis ce lundi. Donc c'est important pour tous nos auditeurs, parce que certains avaient un peu annulé leur venue à Rivière, parce qu'au départ, il n'était pas prévu de mettre des tables, contrairement aux années précédentes. Et finalement, les organisateurs on fait le choix à partir de lundi de hier donc de remettre table et chaises pour permettre aux estivants et puis aux personnes qui voulaient passer une bonne soirée d'acheter une assiette et de se poser le temps de la soirée.
Et oui, toujours assez dur avec cette problématique de crise sanitaire, de gestes barrières, de tout un protocole à respecter. Pour les producteurs,
il y a un protocole,
Oui,
sur tous les marchés. Bon, de toute façon, on est équipé. Lorsqu'on fait le service, on a le masque. Il y a du gel hydroalcoolique à disposition des clients. Il y a les mesures nécessaires pour que ça se passe bien.
Pour terminer cette émission, on va se mettre l'eau à la bouche. Je vous propose, Philippe Ruino, peut-être de nous parler de votre coup de cœur. Quel est votre produit coup de cœur parmi les glaces, les sorbets ? On n'a pas parlé de jus de pomme et de vos pâtes de fruits, mais pour vous, le produit que vous préférez, ou peut-être que votre famille, que vos enfants préfèrent ?
Le coup de cœur, c'est la glace au safran, parce que c'est une glace très fine, très fruitée, et qui rencontre auprès de mes clients parfois beaucoup de préjugés, parce que le safran a une image de produit utilisé dans la cuisine salée. Et pourtant, il y a beaucoup de produits sucrés. C'est une glace, par exemple, en Iran, je crois que c'est avec la glace à la rose, c'est le top des glaces en Iran, la glace au safran. Et c'est vraiment, ça met extrêmement bien en valeur cette épice très raffinée et très goûteuse.
Et voilà, on pense au petit Mathieu qu'on a pu croiser tout à l'heure qui nous a dit que lui, son coup de cœur, c'était la glace à la spiruline, cette algue marine, je crois bien.
Alors marine, pas tout à fait, puisqu'elle pousse en eau douce. On a plusieurs producteurs sur la région. Exactement, c'est une cyanobactérie, parce qu'une algue pousse en milieu salé. Et donc effectivement, ça a plein de propriétés alimentaires. Et surtout, ça donne une très belle couleur bleue. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée avec une collègue productrice de faire cette glace au yaourt spiruline, où la spiruline est là, pas tellement pour le goût, puisque c'est assez neutre, mais pour la couleur. Voilà, ça fait un peu sur mon étal une glace un peu martienne, une couleur verte qui vient trancher avec la plupart des couleurs des fruits qui sont plutôt dans les tons rouge, jaune ou orange.
Allez donc, n'hésitez pas, osez, soyez curieux, safran, spiruline, ortie, donc bien de nombreux parfums à découvrir, plus de 40 parfums. Et la glace, on peut la manger, les glaces, les sorbets, on peut les manger nature, mais peut-être aussi vous avez une petite idée de recette à faire avec les glaces.
Alors, de recettes... Soyons simples, c'est vrai que souvent lorsque j'ai pas beaucoup de temps, tout simplement une boule de glace, une boule de sorbet, un croquant de corde pour rester local, et ça vous fait un dessert magnifique.
Grand merci Père Toutaco, Philippe Rionnaud, artisan fruitier glacier depuis 2007, sous le nom de l'entreprise Les Fruits de nos Jardins, et donc les glaces et sorbets, voilà, sous le nom de la glace albigeoise, mais vous proposez aussi des jus de pommes et des pâtes de fruits. Un mot à rajouter peut-être pour terminer cette émission, une question que vous aurez aimé que je vous pose, que je ne vous ai pas posée.
Vous me prenez au dépourvu. Je reste un peu sans voix. Une question que j'aurais aimé que vous me posiez. Non, je crois que vous avez été complet.
Très bien. Alors peut-être je vais vous prendre au dépourvu. Philippe Rionnaud, vous êtes aussi un grand auditeur des radios associatives locales, hein, pas seulement Radio Albigès, mais on a l'occasion de vous donner quelques petites infos sur des titres ou des émissions diffusées. C'est important pour vous, les radios associatives locales?
Ah oui, au niveau, et en particulier, bon, c'est pas pour vous passer de la pommade, mais Radio Albigès, sur la programmation musicale, j'avais un neveu qui venait m'aider souvent à l'atelier et qui me disait, mais c'est formidable cette radio, par la diversité, la diversité musicale, et on découvre énormément de musique locale ou lointaine, qu'on ne découvre pas sur d'autres radios. Et ensuite, il y a effectivement, que ce soit Radio Albigès ou les autres radios locales. Hein. Moi, j'écoute aussi Radio d'Autan, RCF et plein d'autres. Effectivement, de pouvoir être au courant d'actualités locales qu'on ne peut pas, dont on ne sait rien sur les radios nationales.
Et oui, la diversité cultive, culture d'ici et d'ailleurs sur les ondes de Radio Albigès. Écoutez la diversité, écoutez vos radios associatives locales. Philippe, au grand merci Père Toutaco et Al Plazé.
Merci. Al Kokébé.